Eh bien, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette conférence organisée par le service de l'animation de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Une séance consacrée à l'encyclopédie en ligne des violences de masse. Une conférence en réalité qui sera en deux parties, avec une conférence ce soir, donc jusque 20h30, qui s'intéressera à l'outil encyclopédie en ligne des violences de masse, un outil innovant au service de la recherche et de l'enseignement. Et puis vous pouvez d'ores et déjà noter la prochaine conférence consacrée à l'encyclopédie qui aura lieu le 3 avril 2009, 3 avril également dans cette salle, à l'occasion du premier anniversaire de l'encyclopédie. Et nous parlerons donc dans ce deuxième temps du contenu lui-même, c'est-à-dire des sujets traités, envisagés par l'encyclopédie en ligne. Alors ce soir, donc, pour parler de cet outil innovant, nous recevons la personne qui est à l'origine de ce projet, Jacques Semelin, qui est directeur de recherche au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale à Sciences Po. Également Nathalie Tenenbaum, qui est chargée de mission à Sciences Po, et en particulier donc auprès de Jacques Semelin pour l'encyclopédie en ligne des violences de masse, et également pour donner toute sa dimension de réflexion à l'outil que nous allons étudier ce soir sous différents angles. Nous recevons également Frédéric Martin, qui est conservateur des bibliothèques et en poste actuellement à la Bibliothèque nationale de France, la BNF. Alors nous avons donc une heure et demie ensemble pour faire le tour de cet outil, pour le découvrir si vous n'avez pas déjà regardé sur Internet ce qu'il en était. Un outil que nous allons donc présenter, que nous allons tester, puis que nous allons discuter dans son originalité, dans son apport à la fois pour le côté recherche, pour les chercheurs, et puis aussi dans la perspective du public qui est amené, soit en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, donc pour l'enseignement ou pour sa culture personnelle, qui est intéressé et amené à chercher des informations et à trouver des informations, surtout sur cet outil très innovant. Écoutez, je crois que le plus simple, c'est peut-être de vous donner la parole en premier, Jacques Semelin, pour que vous puissiez nous expliquer en quelques mots l'origine, la genèse de ce projet, avant que nous puissions en avoir une petite démonstration par Nathalie Tenenbaum.
Je vous remercie et je souhaite vraiment remercier les responsables de la BPI et singulièrement Valérie Buisseau qui a pris l'initiative de cette rencontre. Et c'est vrai que c'est pour nous la première fois que nous présentons publiquement l'encyclopédie électronique des violences de masse en dehors de Sciences Po. Et nous sommes très heureux que ça se passe ici au centre Georges Pompidou. Alors ce projet, bon, il a une histoire ou une préhistoire. On est à peu près en 2003 et 2004. Et c'est vrai qu'il est lié d'abord à mon travail, c'est-à-dire que j'étais en train de terminer un livre qui s'appelle « Purifier et détruire ». Et il se trouvait aussi que je voyageais pas mal dans cette époque, dans cette période. J'étais dans les Balkans, au Pérou, en Indonésie, toujours sur ces sujets très difficiles que sont les massacres et les génocides. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience qu'il n'existait pas d'outils rassemblant nos connaissances en matière de violences de masse, c'est-à-dire, entendu le terme générique, massacre, génocide, nettoyage ethnique, et que ça serait peut-être intéressant de le créer. C'est un projet un peu fou, et en réalité, on pouvait être tout de suite orienté vers une encyclopédie de format papier, comme il en existait déjà deux dans le monde anglo-saxon. Mais on pouvait aussi se dire que, ça, les étudiants de Sciences Po nous le démontraient tous les jours, et je veux dire, nous-mêmes, on va beaucoup plus aujourd'hui pour rechercher de l'information sur Internet qu'en bibliothèque. En tout cas, on va peut-être en bibliothèque après avoir été sur Internet et trouver des références. Et donc, c'était un peu l'idée de départ, c'est-à-dire plutôt que de fabriquer trois gros volumes avec un éditeur qui vont aller ensuite dormir sur des étages de bibliothèque et qui coûteront bien trop cher, pourquoi ne pas se lancer dans ce projet d'une encyclopédie électronique. J'ai proposé ce projet à ce qui est devenu mon laboratoire, le CERI, le Centre d'études de recherche internationale de Sciences Po, qui a tout de suite trouvé l'idée intéressante, et plus encore, dans cette dynamique-là, Richard Descoings, en 2004, m'a vraiment donné carte blanche pour m'engager dans cette aventure. Et ça, je tiendrai toujours à lui rendre hommage à cet égard. Très vite, d'autres partenaires sont arrivés, le CNRS, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, plus tard l'Institut de recherche de Hambourg en sciences sociales, le Mémorial de Caen, aujourd'hui d'autres partenaires comme la région Île-de-France, le Grand Orient de France. Il y a beaucoup de faits qui se sont penchés sur ce projet. C'est vous dire que pour qu'ils réussissent, ce projet ne peut être que collectif. C'est vraiment une entreprise unique à l'échelle internationale. Et j'ai bien conscience que nous avons tous conscience qu'il ne pourra devenir atteindre sa pleine maturité que s'il y a un formidable effort de recherche qui est actuellement porté par une équipe française, mais qui a beaucoup de ramifications internationales. Et c'est pourquoi nous avons eu l'idée de dissocier la présentation de l'encyclopédie en deux temps. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, mais le 3 avril, ce sera vraiment l'essentiel des membres du comité de pilotage qui pourront être disponibles ce jour-là, qui animeront les séances autour du projet. Alors, sur le fond, j'en dirai peu de choses. Vous pouvez toujours vous reporter à un texte qui est accessible, qui s'appelle « Notre approche scientifique ». On va en exposer certains éléments aujourd'hui, mais il est donc convenu qu'on parle peu du fond, sauf que j'aimerais ajouter que, bien entendu, ce qui nous anime, c'est à la fois la science et une conception éthique de notre métier. Il est impossible de séparer nos convictions éthiques, civiques et scientifiques si on veut comprendre l'essence même de la dynamique qui nous porte aujourd'hui. Je disais que ce projet a déjà une petite histoire, parce que en fait, nous avons commencé à travailler sur ce projet à 2004. C'était du bricolage. Maintenant, on est toujours un peu dans le bricolage, mais ça devient de plus en plus professionnel. Mais vous voyez, il nous a fallu près de 4 ans pour finalement proposer, entre guillemets, notre produit en avril 2008. C'est vous dire que on a pris notre temps, et ceci volontairement, parce que nous avons bien conscience que nous travaillons sur un sujet particulièrement sensible et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ces raisons que je dirais que le projet est d'abord animé par une éthique et une conception scientifique qui sont inséparables. Et grâce aux conversations, je dois dire, avec Valérie Buissou, qui est venue nous voir, nous avons progressé dans la prise de conscience de ce que nous étions en train de faire à cet égard. Alors, ceci veut dire quoi ? Ceci veut dire que c'est véritablement la responsabilité de connaître et de faire connaître qui est au cœur de notre entreprise. Pour présenter une base de données unique en son genre, mais en même temps une base d'analyse comparative et pluridisciplinaire. C'est dire aussi que ce projet est animé par des chercheurs qui veulent justement faire partager leurs connaissances. Et justement, c'est Internet qui est aujourd'hui le lieu sans doute le plus important à cet égard. Parce que comme vous le savez, sur Internet, on trouve des informations très tendancieuses, très problématiques, en particulier sur ces sujets. Et ce que nous voudrions créer, au fur et à mesure, c'est une sorte de relation de confiance de l'internaute potentiel venant sur ce site. Il ne s'agit pas de dire que les informations qu'on y trouvera sont objectives. Je ne crois pas à l'objectivité en sciences sociales. Mais il s'agit de dire que ces informations, de notre point de vue, vérifiées, évaluées, et ça on pourrait revenir sur ce plan, seront présentées comme pouvant, de notre point de vue, être considérées comme fiables. Voilà, je pense qu'il est au cœur de notre projet, c'est cette volonté de devenir, au fur et à mesure, un site de référence international en ce domaine. Alors, je vais m'arrêter là, pratiquement, simplement pour vous dire que on a commencé très fort. Pourquoi ? Parce que certains le savent, à l'ouverture à Sciences Po, le 3 avril 2008, la cérémonie d'ouverture, si j'ose dire, était sous le haut patronage de Mme Simone Veil, que je n'ai pas besoin de présenter, et de Mme Esther Mujawayo du Rwanda, et que depuis cette ouverture, nous avons comptabilisé, ce sont les chiffres de fin octobre, plus de 105 000 connexions, et surtout, ce qui nous a complètement stupéfait, de 191 pays. Ce qui veut dire que, littéralement, le monde entier est venu déjà sur ce site. Alors, je vais vous semer la devinette, quel est le pays manquant, puisqu'il y a 192 pays à l'ONU. Bon, on peut faire des suppositions, mais c'est notamment, enfin, c'est principalement la Corée du Nord, bien entendu. Mais donc, vous voyez, ça confirme, moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce tel... à cet impact absolument incroyable, d'autant que c'est un reproche qui nous a été fait, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être aussi la clé de notre réussite. Le site est principalement en anglais, mais on va vouloir évoluer plus vers le français. Hein. Mais voilà où on en est. Maintenant, c'est un nouveau chantier, maintenant. On est rentré dans une véritable aventure, hein, avec des collaborations multiples à travers le monde. On n'est pas sûr de réussir. Il est possible qu'on rencontre des obstacles, mais on se donne des garde-fous méthodologiques pour avancer et avec cette idée que, voilà, c'est un projet dont on a voulu aussi qu'il soit accessible à tous. Et parce qu'on a eu cette discussion, et je terminerai par cela, n'est-ce pas, est-ce qu'on va rendre le site payant ? Même les étudiants de Sciences Po, je ne serais même pas prêt à payer 2 ou 3 euros pour accéder à cette information. Donc, notre pari aussi, c'est d'arriver à susciter une telle dynamique que des partenaires, publics ou privés, comme on l'a déjà obtenu d'ailleurs, mais il faudra aller plus loin, nous aident, de telle sorte que n'importe qui à travers le monde, qu'il soit au Pérou, en Chine, en Russie, en Afrique du Sud, puisse accéder gratuitement à ce site. Je voudrais terminer par ça. Ici, nous sommes à Beaubourg, nous sommes dans un service public, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est la conception fondamentale de notre site, de notre entreprise. En charge d'un problème universel, nous voulons offrir un service public universel. Et ça passe évidemment par la gratuité. Je crois que j'en ai peut-être un petit peu traité trop long, mais je ne sais pas, ça vous donne un peu les cadres généraux. Et voilà,
ça nous donne une première introduction. Merci beaucoup, Jacques Seblin. On aura l'occasion de revenir, bien sûr, et de vous réentendre sur l'éthique, votre approche éthique et scientifique. Et puis également, ce sera le cadre de notre discussion ensuite, tous ensemble, sur l'impact d'un outil comme celui-ci, sur la recherche, bien sûr, mais sur la documentation aussi, sur l'accès du public à la connaissance. Mais rentrons, grâce à Nathalie Tenenbaum, directement dans l'outil pour une petite démonstration et savoir exactement ce qu'il en est. Donc je vous laisse tout de suite la parole et l'écran aussi pour nous montrer cette encyclopédie en live.
Alors, merci, on va faire ensemble un petit parcours de consultation tel que pourrait le faire un chercheur, un étudiant, un journaliste ou un juriste d'ailleurs. Vraiment, j'aimerais insister et revenir sur ce que les mots que Jacques prononçait, c'est-à-dire l'idée, c'est vraiment de créer une publication scientifique en ligne qui obéit aux règles de la rigueur académique tout en la mettant à la portée de tous. Et donc l'élaboration, la construction de ce site internet répond à vraiment à ce critère. Donc notre volonté était de créer une base documentaire sur les violences de masse, mais surtout d'entreprendre un effort de recherche sans précédent pour réunir le meilleur des connaissances sur ce domaine, mais toujours avec le souci de créer un outil pédagogique qui soit riche, fiable et rigoureux et qui permette la diffusion des connaissances au-delà du monde académique. Mais c'est aussi la volonté de créer un instrument de valorisation de la recherche sur les violences de masse et donc d'essayer aussi, par le biais de ce site, de susciter de nouveaux travaux, que le site devienne aussi un lieu de débat qui permette de mieux problématiser les objets de recherche et surtout de les faire évoluer. Donc, pour cela, le site propose quatre types de documents. D'abord, des index chronologiques qui sont contextualisés et illustrés. Je vais vous en montrer un dans quelques secondes. Des études de cas qui reviennent de manière plus détaillée sur un cas de massacre, sur des camps de concentration d'extermination. Il y a aussi des états de la question qui dressent un bilan des connaissances et des controverses historiographiques sur un événement en particulier. Et enfin, on propose des contributions théoriques qui sont rédigées sur des thèmes précis par des chercheurs confirmés et qui font le point sur une notion ou sur un thème ou sur l'apport d'une discipline particulière à l'étude des violences de masse. Donc, on offre aussi également un glossaire qui reprend les mots-clés et les notions principales rencontrées dans les articles que vous pouvez consulter sur le site. J'aimerais revenir un petit peu sur la page d'accueil que vous avez à l'écran pour insister sur une chose très importante pour nous dans la réalisation de ce site, c'est que nous avons privilégié une navigation géographique et la consultation pays par pays. Nous sommes toujours refusés à structurer le site en fonction d'une hiérarchisation des cas qui demeure toujours arbitraire. Et à Jacques, comme à toute l'équipe, il nous semblait vraiment scandaleux de rentrer dans une logique qui nous ferait dresser une espèce de palmarès macabre des conflits qui ont fait le plus de morts civiles. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une architecture aussi neutre que possible de la page d'accueil, comme de la navigation sur le site, des couleurs aussi qui sont très froides, qui permettent de prendre un peu de la distance et qui permettent l'analyse, mais également donc de privilégier cet accès géographique où également je vous montre par liste de pays par ordre alphabétique. Voilà, donc ça c'est un premier principe de navigation. Alors on va faire un petit parcours ensemble. Ici dans cette rubrique-là, qui s'appelle The Project, vous pouvez consulter l'ensemble des textes de référence qui ont participé à la construction du projet. Donc vous avez une présentation du projet en français, en espagnol et également en anglais. Et le texte dont Jacques a parlé tout à l'heure et qui fonde un peu notre démarche scientifique se trouve ici, qui s'appelle Our Scientific Approach, ou notre approche scientifique en français, et qui est également en cours de traduction en espagnol. Vous avez également dans cette rubrique une présentation de l'équipe, donc du comité de pilotage et du comité scientifique international, qui surveille et valide l'ensemble des contributions qui sont mises en ligne. Également, une petite explication sur le logo que nous avons choisi et qui a été dessiné par un professeur de dessin aux États-Unis qui s'appelle Simon Simons. Voilà, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Également, l'ensemble de nos partenaires scientifiques et financiers, que vous pouvez voir ici, et une page qui résume ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir les normes d'accessibilité du site. Donc, comme on le disait, on a toujours fait en sorte d'utiliser des logiciels ou des formats, notamment de taille d'image, de taille d'écran, qui permettent de se connecter et de lire l'encyclopédie dans le monde entier, sans avoir nécessairement recours à des logiciels très sophistiqués qui demandent une technologie plus importante. Alors, on va faire ensemble un petit parcours maintenant un peu plus à l'intérieur des rubriques du projet. Donc, quand on souhaite avoir un index chronologique contextualisé ou illustré, donc par exemple, je vous en montre un sur l'Inde, on peut soit donc prendre la carte. Donc, tous les pays qui sont traités sont soulignés. Donc, je vais dans l'Inde. Voilà, ça, c'est un index chronologique qui aborde donc l'Inde avant la partition, donc avant 1947. Donc, l'ensemble, vous trouverez toujours la même structure sur le site Internet pour chaque étude de cas, chaque index chronologique. Donc, le nom de l'auteur, son statut, la date d'actualisation de l'article, sa date de publication, et toujours ce petit sommaire qui vous permet de naviguer et d'aller de naviguer dans l'étude de cas si vous êtes plus particulièrement intéressé par un thème. Dans cette colonne-ci, vous trouverez également donc des études de cas qui sont liées à ce pays. Donc on a une étude de cas sur les émeutes de Calcutta de 1946. Vous avez également, alors je vous montre ce que ça fait quand les contributions sont en cours de préparation. On essaie d'être le plus transparent possible dans nos procédures. Et donc, lorsque, par exemple, on a des textes qui sont en préparation, ils sont annoncés sur le site et on explique par ce petit texte aux internautes où est-ce qu'on en est dans le processus de validation de cet article. Donc, pour celui-ci, vous voyez que l'article est en cours de rédaction, mais il peut être aussi en cours de validation, en cours de traduction ou subit un processus d'editing pour être publié. Je reviens également sur l'Inde pour vous montrer qu'on a également à disposition un certain nombre de photos ou de cartes, par exemple. Là, vous avez une carte du Punjab en 49 sur lesquelles on peut facilement cliquer, qu'on peut cliquer, regarder, imprimer. Et toujours, donc pareil, sur le même principe, vous avez une rubrique qui s'appelle « Who were they ?» et qui revient en fait sur les principaux protagonistes historiques d'un pays, illustrés par une photo, et c'est en fait une petite biographie des personnages principaux, pareil, qu'on peut télécharger et imprimer. Donc, toujours sur cette colonne, donc vous pouvez imprimer les cartes, les images, mais également avoir en PDF l'article sur votre ordinateur ou l'envoyer. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer ce qu'on appelle les états de la question ou les scholarly reviews, donc qui reviennent sur le bilan des connaissances ou les controverses historiographiques sur un thème en particulier. Alors, c'est une rubrique en construction. Et donc là, vous voyez, que, comme nous n'avons pas encore malheureusement traité tous les pays, on va directement sur la liste des textes qui sont disponibles. Et donc, vous voyez qu'on en a sur le Cambodge, sur le génocide au Rwanda, sur le Guatemala, sur l'historiographie de la guerre en Asie-Pacifique. Donc, je clique sur celle sur le Rwanda pour vous montrer le type de texte. Donc, pareil, toujours ce sommaire qui vous permet d'aller de rubrique en rubrique, de thème en thème, si on est plus particulièrement intéressé par, là, par exemple, sur la littérature des témoins du génocide rwandais. Je vous montre une étude de cas. Donc, on peut aller en France. Voilà, donc il y a aussi ce mode d'accès par pays, où vous avez donc tous les continents. Voilà, donc on a trois études de cas, par exemple, pour la France, sur la rafle du Veldiv. Et donc l'ensemble des études de cas est toujours structuré de la même manière. Je vous montre tout de suite. Voilà, hop. Celle sur le camp de Drancy. Voilà, donc il y a toujours une étude du contexte, ce qu'on appelle les instigators and perpetrators, c'est-à-dire les gens qui ont commis, les exécutants, le massacre, les victimes, les témoins, la mémoire, comment est-ce que on a qualifié juridiquement les faits, et une petite bibliographie qui vous permet à chaque fois d'aller voir plus loin si cela est souhaité. Enfin, je vous montre également les contributions théoriques. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre. Et c'est très thématique, en fait, comme sujet. Donc, par exemple, si vous voulez avoir un article d'un chercheur confirmé sur ce qu'on appelle le ethnic cleansing, voilà, donc il y a une étude de Norman Lemarck. Et c'est assez varié comme sujet. Ça peut aller, donc, quels sont les rapports entre la guerre, le génocide, mais également, vous avez là un texte sur l'avènement de la notion de massacre pendant les guerres de religion. Et enfin, le glossaire. Donc là, on navigue de manière alphabétique dans le texte, et qui recense l'ensemble des notions qui sont évoquées sur le site. Et si vous voulez avoir une brève définition, et pareil, des éléments de bibliographie, tout s'y trouve. Voilà.
Merci Nathalie Tenenbaum pour cette première présentation. Donc, comme ça, nous partons sur les mêmes bases et nous avons tous un aperçu du fonctionnement du site avant de discuter l'outil lui-même. Alors, pour commencer cette discussion à laquelle, bien sûr, vous serez associé avec vos questions. Je vais peut-être vous donner tout de suite la parole, Frédéric Martin, simplement pour avoir votre point de vue, vos réactions. Vous connaissiez déjà un peu l'outil, mais votre point de vue justement de conservateur des bibliothèques pour avoir, nous rediscuterons le point de vue des chercheurs et comment cet outil peut aider à la recherche, mais en quoi il aide à la connaissance et question spécifique il peut poser aussi à la connaissance.
Tout à fait, oui. Je pense que les présentations très claires qui nous ont été faites appellent un certain nombre de commentaires. Tout d'abord, tout de même, un commentaire personnel sur la démarche. Je pense que l'on peut tous saluer cette démarche-là courageuse, puisque elle s'attaque à des faits de notre mémoire récente, collective, douloureuse. Et cette dimension éthique, civique, sur laquelle nous reviendrons sans doute tout à l'heure, est quelque chose qu'à titre personnel, il est important de souligner. Je pense que c'est une affaire qui nous implique individuellement chacun. Concernant l'aspect de documentaire proprement dit, il y a dans cette encyclopédie en ligne un certain nombre de points forts qui appellent des questionnements, des réflexions. Donc ces points, on pourrait citer tout d'abord la démarche d'archives ouvertes ou d'open access, hein, qui vise à montrer, à faire partager au plus grand nombre un travail scientifique. Donc c'est déjà un point tout à fait important de la démarche. Et on voit bien que là, cet outil est la concrétisation vraiment d'un projet qui a été pensé d'emblée comme devant être partagé par le plus grand monde. Donc on a cette dimension d'ouverture maximale à différents publics, chercheurs et peut-être aussi grand public. Ça, c'est une première question que l'on pourrait poser. Il y a également un autre aspect tout à fait intéressant de la démarche, qui est ce modèle collaboratif. D'emblée, on a un outil qui est alimenté, qui est produit par plusieurs experts, plusieurs chercheurs. Donc on a ici quelque chose qui relève de l'animation d'un réseau d'experts qu'il faut faire vivre. Donc repérer les experts, leur expliquer la démarche. Donc on a ces aspects-là qui me semblent aussi important, avec aussi le modèle de validation de l'information qui est celui de cette encyclopédie. Les aspects de multilinguisme possibles. Alors, on a une encyclopédie qui était essentiellement en anglais pour l'instant, mais je crois savoir qu'il y a aussi des projets de rédaction d'articles dans les langues vernaculaires ou les langues qui sont celles des pays concernés. Donc ça, c'est un aspect tout à fait important, ce modèle collaboratif. Et enfin, pour ouvrir un petit peu la discussion, j'ajouterai en troisième point important qu'on a là un objet documentaire d'un genre nouveau qui pose des questions sur, pour le bibliothécaire que je suis, sur la conservation, la pérennité de cette information. Ce n'est pas un problème propre à cette démarche-là, mais elle l'illustre particulièrement bien, je pense, d'autant plus qu'on est là dans un service public de mémoire collective. Il est important de garder les traces pour les générations à venir de ces violences de masse, mais aussi du travail de recherche autour de ces violences de masse. Et là, on passe à quelque chose de nouveau qui est une information exclusivement sous forme numérique. Donc, pour le professionnel de la documentation, se pose la question de la conservation de cette information numérique sur le long terme, 10, 50 ans, 100 ans, etc. Donc, c'est une question particulièrement stimulante, qui est un domaine relativement émergent, puisque finalement, le Internet et la publication en ligne, c'est quelque chose de relativement récent, qui date d'une quinzaine ou une dizaine d'années, qui, avec l'histoire de l'informatique, qui débute il y a 50 ans à peu près. Donc on est sur des modèles tout à fait nouveaux. On n'a pas forcément le recul encore sur ce que devient cette information numérique au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, mais je pense que c'est un aspect qu'il faut aussi avoir à l'esprit dès la conception, dès le début du projet. Et le fait que vous utilisiez déjà des normes et des standards du W3C, que vous soyez soucieux de l'accessibilité en termes, je dirais, informatiques aussi, c'est-à-dire utiliser des technologies modernes pour un certain aspect, mais simples aussi, avec des documents textuels, avec des formats de fichiers qui sont des formats simples et qui peuvent être donc plus facilement conservés. Hein. Tous ces aspects-là font qu'à mon avis, votre démarche est particulièrement innovante et intéressante pour le bibliothécaire et donc pour la conservation du document.
Petite question de profane, qu'est-ce que c'est le W3C?
Alors le W3C, oui, c'est un consortium international qui est à l'origine de toutes les normes liées au web. W3C, c'est Web, World Wide Web Consortium. Donc l'HTML, XML, etc. Sont des normes qui sont des normes internationales et qui sont des normes qu'on peut librement utiliser et qu'on doit utiliser si l'on souhaite publier correctement des informations sur Internet.
Et les rendre accessibles, j'imagine, à un plus grand nombre, justement, d'un certain nombre de pays qui n'ont pas le même développement technologique au niveau de leurs outils. Alors, on reviendra tout à l'heure sur cette spécificité de la forme numérique dont vous parliez, Frédéric Martin, mais vous parliez également d'objets documentaires d'un genre nouveau. Et là, je me place plutôt du côté de la production, c'est-à-dire que vous avez fait le choix de cette encyclopédie, qui n'est pas donc, qui pourrait être aussi un produit numérique d'une revue en ligne, hein, sur ce thème des violences de masse, avec des articles que vous recevez, de chercheurs, etc. Et on a l'impression, en tous les cas, en voyant votre démonstration, que vous avez dû enfermer vos chercheurs, et peut-être vous-même déjà en tant que chercheur, dans des guides très très précis pour l'écriture et la constitution d'un savoir au fur et à mesure, mais toujours dans des normes très précises. Est-ce que vous pourriez développer un peu cet aspect, les conséquences que ça a pu avoir sur le travail des chercheurs collaborateurs, soit vous, Jacques Semelin, ou Nathalie Tenenbaum?
Ben, on peut répondre tous les deux. Simplement, ce que je voulais... Je vous remercie de vos commentaires. Juste pour rebondir, vous disiez chercheurs et grand public. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Si j'ai personnellement une conception éthique de mon métier, c'est de toujours imaginer que nous devons produire des travaux érudits, mais lisible, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en sciences sociales. Et je pense qu'on peut tout à fait faire preuve d'érudition en s'exprimant de manière accessible. Cette érudition, elle se traduit, un, par des notes, des références et des sources qui doivent être considérées comme incontestables, et on ne parlera pas sur ce site de chiffres de victimes sans que on soit certain d'une évaluation relative. Ça fait partie des normes, je vais y revenir. Mais elle se traduit aussi dans la manière dont on construit des phrases pour raconter une histoire, dans la contextualisation. Et en réalité, c'est un exercice souvent difficile que nous demandons aux chercheurs. Mais voilà les exigences. La deuxième chose, c'est que vous avez dit que c'est un modèle coopératif, collaboratif. C'est vrai, mais on pense peut-être à un autre modèle d'encyclopédie quand on dit ça, n'est-ce pas, qui est très très généraliste, encyclopédie en ligne. Et il est vrai que de ce point de vue-là, nous souhaitons être un anti-modèle. Pourquoi ? Parce que sur des sujets aussi sensibles que ceux-ci, il n'est pas possible de laisser libre cours à des contributions spontanées, et on se corrige, etc. etc. Donc ça me conduit à votre question, Harold, c'est-à-dire que, oui, effectivement, nous avons des procédures de construction, en fait, des produits que nous, entre guillemets, que nous allons mettre sur le site, qui sont assez rigoureuses, oui, assez contraignantes pour le chercheur. Et c'est vrai que là, on se heurte parfois à des problèmes culturels, y compris dans notre milieu, c'est-à-dire que nous avons des recommandations, hein, ce qu'on appelle en anglais les guidelines, que tout contributeur se doit de suivre pour que sa contribution soit acceptée. Alors, ces critères sont de deux ordres. Ils sont d'ordre technique. Et ça, c'est très important. C'est une rupture dans notre milieu. Et c'est là où on a peut-être aussi rencontré des obstacles. La première chose qui est dite dans ces recommandations, on leur dit « Attention, vous écrivez pour Internet. Ça n'a plus rien à voir avec une contribution papier. Donc, s'il vous plaît, suivez un certain nombre de consignes qui vont faciliter ensuite la mise en ligne de votre papier. » Bon, et la deuxième chose, c'est bien sûr des recommandations de nature scientifique sur la manière d'écrire leur contribution. Mais une fois que on va recevoir la copie, et ça, Nathalie aussi pourrait vous parler de tout le processus, qui est laborieux, on n'est pas sorti encore de l'affaire, puisque, comme toute publication scientifique, il faut vraiment insister que nous sommes une publication scientifique en ligne, une nouvelle publication scientifique en ligne de Sciences Po, hein, il y a une procédure de validation des articles comme n'importe quelle revue papier, de ce point de vue-là. Mmh. Voyez. Donc, c'est vous dire que là, on se donne des exigences qui sont un peu contradictoires avec Internet. C'est-à-dire que on va tout de suite parler de lenteur. Alors qu'Internet, on va avoir tout de suite l'information. Eh bien, désolé pour aujourd'hui, on en est très désolé parce qu'on voudrait que ça aille plus vite, mais pour un certain nombre de pays ou de cas, on n'a pas à donner quelque chose. Mais c'est lié à ce processus lent. Et en même temps, bien sûr, à la nécessité pour nous de trouver des contributeurs de qualité, et c'est pas toujours si simple. Donc, voilà une manière de répondre, j'espère brièvement, à votre question.
Ça me permet juste d'ajouter une chose, Jacques. Non seulement quand Jacques parle de processus de validation, on vérifie aussi donc que chaque chiffre annoncé et avancé dans les contributions est vérifié. On vérifie, il y a aussi pas mal de recommandations qui concernent la manière de sourcer de manière scientifique chaque hypothèse avancée, mais surtout l'ensemble des événements ou des massacres qui sont recensés dans les index chronologiques sont gradués. C'est-à-dire qu'on gradue la connaissance, le degré de connaissance de cet événement. On a une échelle qui va de 1 à 3, qui se manifeste par une petite étoile sur le site Internet. Donc, si c'est une étoile, ça veut dire que pour le moment, cet événement n'est pas connu et n'a pas donné lieu à des travaux de chercheurs. Donc, c'est des informations de première main, des témoignages. Donc, là, on dit attention, précaution. Sinon, deux étoiles, là, c'est quand il y a eu déjà des enquêtes menées généralement par des journalistes ou par des ONG. Et puis, trois étoiles, c'est quand il s'agit d'un massacre reconnu de tous qui a suscité un certain nombre de travaux scientifiques. Voilà.
Merci pour ces précisions. On a bien compris donc que vous vouliez placer le modèle de l'encyclopédie comme une sorte de contre-modèle des plateformes Wikipédia, etc. Est-ce que néanmoins dans la conception même de l'outil, vous laissez une place aux contributions, propositions de contributions extérieures, ou est-ce que vous allez simplement en agrandissant vous-même votre réseau, en enquêtant, en l'élargissant, ou vous laissez la possibilité de vous laisser surprendre par des contributeurs dont vous vérifiez le travail, bien sûr, mais est-ce que c'est dans ces deux formules que vous travaillez?
Oui, on est très ouvert à toute proposition, mais effectivement, on essaie d'encadrer l'auteur potentiel d'une contribution de ses recommandations et également de la philosophie du projet, sachant que c'est toujours... On a découvert avec Jacques un certain nombre d'obstacles dans le milieu aussi culturel. Qu'est-ce qu'on appelle génocide? Qu'est-ce qu'on appelle massacre? Et ces manières de percevoir la violence de masse varient. On a découvert qu'en fait, elles variaient en fonction des continents auxquels on s'adressait.
Jacques Seblin.
Oui, deux précisions importantes. Moi, si j'avais un rêve par rapport à cette encyclopédie qui, j'espère, va se développer, etc., c'est qu'un jour... quelqu'un de Russie, du Pérou, ou d'Afrique, ou d'ailleurs, ou en Europe, se disent « mais il s'est passé telle chose dans mon pays, et je n'en sais rien, parce qu'il y aura les index quand même. » Et ça, ça va le motiver pour travailler et peut-être un jour faire une thèse, voyez, investir l'histoire de son propre pays. Qui sait si ça peut ne pas se produire à travers aussi cet instrument. Mais ce qui est peut-être aussi important sur la conception de notre connaissance, c'est qu'évidemment, il ne s'agit pas de dire que nous avons la vérité. Je prends la définition du génocide. Vous savez qu'elle est très controversée, qu'il y en a toutes sortes d'approches. Et il était exclu dans mon esprit que j'ai travaillé sur ces questions, mais que j'impose en quelque sorte, en quoi que ce soit, ma définition du génocide. Et si nos chers collègues veulent de plus en plus investir ce site, je ne sais pas si c'est un rêve, mais en tout cas c'est un projet, et je pense qu'on va arriver à le faire, c'est que les meilleurs auteurs, ceux qui ont le plus travaillé cette définition du génocide, eh bien, proposent leur propre approche. Et là, on aura rempli notre service public universel, c'est-à-dire que vous irez sur ce site et vous aurez les 10, les 15 approches différentes de la notion de génocide selon tel ou tel auteur et selon tel ou tel continent. Parce que, comme dit Nathalie, on s'aperçoit, et c'est ça qui est absolument extraordinaire en travaillant avec différents partenaires dans le monde, que les gens n'ont pas du tout la même conception de ce qu'ils appellent génocide. Mais nous, on ne voudra pas dire « voilà, c'est ça ». C'est donc une volonté véritablement de partage et surtout, en fin de compte, de donner à penser, de laisser à penser, de considérer l'internaute comme adulte de telle sorte qu'il puisse faire sa propre réflexion. Bien entendu, nous avons nos propres catégories. Notre approche scientifique, vous aurez, en lisant ce texte, la vision de ce projet, mais nous sommes ouverts à des approches contradictoires.
Frédéric Martin, est-ce qu'en entendant comment on conçoit, comment on construit, comment on gère cette encyclopédie en ligne, on peut rapprocher ce fonctionnement adopté donc par les équipes de Sciences Po du fonctionnement d'une bibliothèque numérique? Est-ce qu'on est dans la même perspective? Est-ce qu'on relève les mêmes défis? Ou est-ce qu'on est dans une optique tout à fait différente?
Alors, je pense qu'on est dans une démarche comparable à celle d'une bibliothèque numérique. Là aussi, il y a plusieurs approches de la notion de bibliothèque numérique. Pour moi, on est davantage dans l'approche des archives ouvertes, de la publication scientifique en ligne, donc de nouveaux modes d'édition, plutôt que dans l'édification d'une bibliothèque numérique, je dirais patrimoniale, avec des numérisations de documents plus anciens, patrimoniaux, qui sont tombés dans le domaine public, l'objectif est de donner plutôt une documentation primaire et non pas une documentation secondaire qui est celle de la recherche en cours. Donc il y a évidemment des points communs très forts pour les aspects techniques, fonctionnels, entre les sites d'archives ouvertes et les sites de bibliothèques numériques qui numérisent des documents qui sont des documents sur support dit traditionnel, hein, le papier, l'image, etc. Il y a les mêmes problématiques de visibilité de ce travail sur Internet, de référencement, de signalement, de connexion. On a vu sur la page d'accueil de l'encyclopédie en ligne, là, qu'il y avait des flux RSS. On peut s'abonner à des flux RSS, donc être informé en temps réel des nouveautés, des nouvelles publications qui sont sur cette encyclopédie. Les bibliothèques numériques aussi développent ce type de fonctionnalité pour aller vraiment vers des sites qui ne sont plus des îles dans un océan d'informations, dans une masse considérable d'informations, mais plutôt comme des étoiles qui rayonnent et qui diffusent largement cette information aux usagers. Donc en ce sens, je pense qu'il y a effectivement des points de convergence très forts entre des démarches de type open access, publication scientifique et des démarches de constitution de bibliothèques numériques patrimoniales.
Mais est-ce que cette différence avec la bibliothèque de type patrimonial dont vous parlez, elle n'est pas due plutôt à la nouveauté aussi de la matière, ou la difficulté, ou la nécessité justement de constituer un fonds de connaissances, qui est le défi que vous relevez, plutôt que lié au type d'outils qui sont utilisés, ou peut-être les deux?
C'est peut-être les deux. Moi, je suis pas très compétent pour répondre sur le plan proprement technique, technologique, mais je voudrais aussi reprendre la question, enfin le commentaire que vous avez fait sur l'archivage précédemment. Et c'est vrai que nous n'en avions pas conscience en lançant le projet au départ, mais il est exact que cette question est revenue très souvent à travers les contacts et les partenariats que nous avons commencé à établir. Il se trouve que l'équipe de Mme Valérie Pécresse s'intéresse à notre projet, et une personne du ministère de la Recherche nous a exactement posé cette question d'emblée. Comment allez-vous archiver vos documents? Avec le CNRS, c'est la même chose. Le directeur de la bibliothèque de Sciences Po nous a posé la même question. Et je pense que nous sommes tout à fait conscients que c'est très important de concevoir cet archivage. Et là, on est totalement ouvert à une collaboration avec les bibliothèques pour savoir de quelle manière nous pouvons évoluer, les solutions techniques les plus adaptées. Et autre point que vous avez un peu évoqué, la question des archives. Il y a archivage et archives. Mais effectivement, pourquoi pas imaginer que cette encyclopédie soit aussi un lieu d'archivage? Alors, on ne va pas inventer des choses qui existent déjà. C'est-à-dire que, bon, si on renvoie, par exemple, quand on parle de Nuremberg, on va simplement renvoyer aux archives du tribunal international de Nuremberg ou de loi de Nuremberg de Hitler. Ben, on sait que tout ça, c'est en ligne, donc on va faire des liens. Mais on peut très bien imaginer, comme nous l'a proposé notre collègue Nicolas Wert, comme vous savez, spécialiste de l'Union soviétique, de pouvoir mettre en ligne des ordres du NKVD, donc qui serait une illustration directe du propos en regard de l'article en question. C'est incroyable tout ce qu'on peut concevoir avec le temps, mais aussi avec de l'argent, parce que tout ça suppose quand même des moyens financiers.
Mais il y a aussi, je reprends vos propos, Frédéric Martin, l'idée d'avoir une étoile, d'être un modèle comme une étoile qui rayonne. Et comme le disait Jacques, on aimerait également construire une espèce de page de lien, toujours avec cette ambition d'être un outil de référence qui renvoie vers des choses, des éléments de connaissances qui sont fiables, de construire une page qui recense l'ensemble des sites internet académiques, mais aussi d'associations professionnelles, etc., ou de connaissances qui sont fiables selon l'encyclopédie, et donc d'être un peu un mini portail qui renvoie donc vers des données vérifiées et sérieuses.
Sur cette question des archives et de l'archivage, Frédéric Martin, quelles sont les solutions, ou alors les modèles contre-modèles qui existent, qui ont cours, les problématiques qui se posent de votre point de vue?
Alors, première chose, vous avez dit que quand vous avez lancé ce projet, vous n'avez pas pensé tout d'abord à la question de l'archivage. C'est tout à fait normal. Les chercheurs, les historiens ont pour vocation de chercher, d'écrire, de contribuer à l'édition scientifique, à la recherche dans ce domaine. Ce n'est pas, je dirais, dans leur premier rôle de penser à la conservation des documents. Donc, naturellement, c'est un réflexe qui n'est pas évident dans le monde de la recherche, mais qui va le devenir, puisque la question de l'archivage de l'information numérique, c'est une question à la fois informatique, c'est une question documentaire, et c'est une question de production de l'information elle-même. Donc, petit à petit, et dans un délai très très proche, à mon avis, il va falloir que, à la fois les chercheurs qui produisent l'information, que les documentalistes, les bibliothécaires, les conservateurs qui sont chargés de préserver l'accès à ces informations-là et les informaticiens puissent travailler ensemble sur ces aspects d'archivage, puisque cette question n'est pas une question seulement réservée à une discipline particulière. On a besoin de prendre en compte toute la chaîne de production, de mise en ligne du document. Sur les aspects de problèmes posés par l'information numérique en termes de préservation, il y a différentes approches possibles de la question. C'est une question assez complexe et assez nouvelle. On a tout d'abord l'aspect de support, puisque l'information numérique n'est pas une information virtuelle. Elle repose bien sur des supports qui sont inscrits, donc qui peuvent être des supports de différentes natures, des CD-ROM ou des serveurs, des bandes magnétiques, etc. Mais il y a quand même un support, et ces supports-là ne sont pas éternels. Ils sont même beaucoup plus fragiles que les supports traditionnels, le livre, le papier, etc. Donc, on a conscience à présent qu'il est illusoire de rechercher les matériels informatiques les plus durables, puisque ça n'existe pas. Donc, il va falloir régulièrement transférer de support informatique à support informatique l'information pour ne pas la perdre, pour ne pas qu'un jour on découvre un serveur ou un disque dur irrémédiablement cassé, qui ne fonctionne plus, et on aura perdu le fruit de peut-être plusieurs années de travail. Donc c'est un premier niveau basique qui est vraiment celui du support, le transfert du support. On a un autre problème qui est celui des formats utilisés, les formats de fichiers. Ces formats-là évoluent très vite, et l'on va se heurter à des problèmes là aussi d'obsolescence technologique. Est-ce qu'on peut lire des formats de fichiers avec nos logiciels actuels, des fichiers qui ont été créés il y a 10 ans ou il y a 15 ans? C'est difficile. Ce n'est pas forcément toujours compatible. Et cette question, elle est vraiment très, très prégnante dans notre domaine, et on doit pouvoir trouver des solutions. Et puis, il y a une autre solution possible. Pour répondre à cette question de l'évolution des formats, il faut se dire que tôt ou tard, on va devoir faire des migrations, des conversions de formats. Donc, les articles qui sont publiés dans tel ou tel format actuellement devront, dans 10 ans, dans 15 ans, changer de format, avec peut-être une perte d'information ou une perte de présentation. On aura peut-être des couleurs qui vont disparaître, ou du moment que le fond est conservé, à la limite, c'est moins difficile. Puis, dernier aspect sur la préservation, l'autre solution consiste à recourir à ce qu'on appelle l'émulation. Et l'émulation, c'est simuler un environnement informatique et logiciel pour reconstituer des conditions de lecture, d'accès aux documents pour une période plus ancienne. Donc, cela signifie que dans plusieurs années, on pourra. Les ordinateurs auront profondément évolué, seront plus rapides, seront différents, mais il faudra qu'on puisse simuler sur ces ordinateurs puissants les ordinateurs de notre époque, de 2008, pour pouvoir accéder à l'information qui est produite en 2008. Donc, vous voyez qu'on a là plusieurs pistes possibles pour résoudre ces problèmes-là, et que il faut maintenant pouvoir tester et mettre en œuvre de manière plus approfondie ces réponses aux problèmes de la préservation numérique.
Voilà des mises en garde et des conseils aussi pour la pérennité de votre travail. Alors, il y a une question aussi qui me semble importante dans ce que vous avez décrit, qui sont les conséquences du mode collaboratif que vous avez choisi. Et je pense en particulier à la façon dont vous gérez, donc c'est le sens de ma question, cet aspect collaboratif entre tous les chercheurs qui collaborent, donc qui travaillent à l'encyclopédie, à la fois peut-être avec leur attrait de plus en plus fort les uns les autres de laisser des traces individuelles ou institutionnelles pour des classements qui semblent de plus en plus importants dans la compétition, dans la recherche, mais aussi peut-être en termes de responsabilité sur des sujets aussi sensibles que cela. Il y a, si on prend le cadre juridique français, le directeur directeur de la publication qui doit être donc à chercher autour de Sciences Po, je pense, ah, mais aussi la responsabilité.
C'est l'administrateur.
La responsabilité aussi des auteurs. Alors, est-ce qu'il y a des signatures bien claires ou est-ce que finalement les auteurs se fondent les uns les autres dans des articles? Comment on s'y retrouve? Alors, j'ai peut-être pas été suffisamment attentif tout à l'heure dans votre démonstration, mais comment gérez-vous ces aspects collaboratifs liés aux problématiques des auteurs qui contribuent?
Alors, c'est une publication scientifique, donc comme toute publication scientifique, elle a un directeur administratif et un directeur scientifique. Le directeur administratif, c'est l'administrateur de Sciences Po, et le directeur scientifique, c'est moi-même. L'encyclopédie possède un statut juridique, et donc tout auteur est appelé à, si sa contribution est acceptée, à signer un contrat comme n'importe quel autre partenaire éditorial. Alors, est-ce que c'était ça votre question?
Oui, c'est de pouvoir cerner effectivement la part de création individuelle. Par exemple, vous avez pour les victimes et pour tel pays et tel massacre un article qui vous est produit, donc signé par un auteur ou deux auteurs identifiés. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des corrections qui viennent, puisque c'est un outil mis à jour régulièrement, mais qui ne sont pas forcément du même auteur. Alors, est-ce que l'auteur lui-même les intègre et en prend la responsabilité? Comment finalement vous gérez de tous les points?
Le site a ouvert au mois d'avril, donc on a une très faible expérience encore de ce genre de thématique. Mais pour le moment, l'auteur réactualise lui-même et a cette responsabilité de réactualiser le plus possible sa contribution. Maintenant, il est tout à fait possible d'imaginer avoir plusieurs versions d'une même contribution créée et écrite par des auteurs différents. C'est ce qu'on disait. Par exemple, vous avez un état de la question sur le Rwanda qui a été rédigé l'année dernière. Maintenant, il se peut que dans 10 ans, qu'on a un regard tout à fait neuf sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc, on pourrait imaginer que l'état de la question qui est publié maintenant, en fait, c'est une photo d'un état de la connaissance qui a évolué depuis. Donc, pourquoi pas?
D'où la nécessité aussi, comme vous disiez, d'archiver ou de faire des empreintes régulières.
Donc, on pourrait juxtaposer des articles. Et donc, à chaque fois, effectivement, la date de parution et d'actualisation est spécifiée pour un maximum de transparence et d'honnêteté intellectuelle.
Oui. Jacques Semelin.
Oui, juste un complément qui est pour nous central. C'est, vous parliez de l'importance d'écrire des contributions pour les carrières.
Oui.
Donc, c'est vraiment un problème essentiel parce que, disons que les contributions à des sites Internet, et là, j'en prends le mot site Internet, ne sont pas tellement valorisées par les comités d'évaluation des experts, n'est-ce pas? Donc, un certain nombre de nos collègues vont considérer que la priorité pour écrire une contribution pour le site d'encyclopédie est la sixième ou la septième dans une liste, voyez? Donc, voilà, on se heurte à cette difficulté, mais je pense que, enfin, on est un certain nombre à penser que le temps joue en notre faveur, que les publications en ligne vont évidemment de plus en plus se développer, à condition bien sûr qu'elles correspondent à des critères de validation scientifique des publications, ce que nous voulons absolument. En revanche, je dois ajouter que ceux qui participent déjà avec nous à cette entreprise sont venus nous rejoindre au-delà même de ces considérations de carrière, certainement pour eux. Je pense qu'ils sont animés aussi de cette volonté de faire partager d'un point de vue civique leurs connaissances et de les mettre à la disposition du public. Et surtout aussi quand on travaille sur un pays étranger, par exemple, où il y a des problèmes de mémoire, eh bien, c'est vrai que le site contribue d'une certaine manière à être une mémoire, on va dire, de prothèse extérieure pour un pays étranger sur lequel le travail n'a pas vraiment encore ou trop peu commencé. Et donc, je pense que cette conviction-là a animé certainement la majorité de ceux qui nous ont rejoints dès le début ou en cours de route, déjà aujourd'hui. Mais en plus, j'ajouterais que pour les jeunes chercheurs, pour les doctorants aussi, les jeunes là comprennent plus en général l'intérêt d'Internet, ça fait plus partie de leur culture, mais aussi ils considèrent que c'est quand même un atout dans leur profil de jeunes chercheurs participer à un projet international de cette nature. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué, mais là, c'est vrai qu'il faut le dire franchement, on se heurte de temps en temps à des difficultés qui tiennent à notre propre culture scientifique et à nos propres critères de validation.
Mais il faut aussi imaginer que le comité de pilotage qui dirige le projet est un lieu de dialogue absolument fascinant. Ah oui. Entre des spécialistes de phénomènes de violence de masse qui ne dialoguaient pas et qui n'échangeaient pas auparavant. Et donc quand on assiste à une réunion de comité de pilotage de l'Encyclo, c'est absolument fascinant parce qu'on a un responsable qui est spécialiste du génocide des Arméniens qui va dialoguer avec un autre sur la Shoah. Et qui, ça permet déjà d'établir une certaine forme de mise en perspective de la connaissance qui est assez impressionnante et qui ne se faisait pas auparavant.
Et juste de ce point de vue-là, on a vraiment l'impression qu'on est embarqué dans une aventure. Une aventure de la connaissance au sens propre, non seulement avec les dialogues entre collègues, mais aussi avec les informaticiens. Hein, c'est un produit qu'on a construit ensemble. Et c'est vrai qu'on retrouve là un peu des idéaux universalistes des encyclopédistes des Lumières, si je me permets quand même de faire cette référence, même si on est bien modeste dans cette affaire, et avec cette idée que ben voilà, on crée quelque chose de neuf. Pour la pédagogie, bien sûr, pour la diffusion de la connaissance, mais aussi pour la recherche. On peut très bien, on veut, alors justement, ça va être l'esprit de la journée du 3 avril que nous voulons faire ici, on peut très bien imaginer des ateliers de l'encyclopédie, hein, dans des formules plus traditionnelles de séminaires, où on va réunir des experts de différents pays ou de différentes problématiques pour échanger... voilà, les connaissances, mais aussi construire de nouveaux objets.
Vous avez créé un véritable lieu de vie intellectuelle internationale et de défis aussi technologiques pour la recherche. Alors, on va mettre de côté juste un moment la perspective recherche pour s'adresser à la perspective plus publique et connaissance et prendre vos questions dans la salle pour continuer le débat avec nos trois invités. Monsieur, sur le côté, souhaiterait poser une question. Juste le temps de vous proposer un micro pour que nous puissions vous entendre.
Günther Pomarenke, allemand, philosophe, et je suis ici par hasard. Je suppose que l'importance d'une encyclopédie de cet ordre est d'éviter que ça se reproduise. Et la question, c'est est-ce que dans cette encyclopédie, excuse-moi, est-ce que vous avez eu donc le soin de vraiment insister sur les causes de ces massacres. Et est-ce qu'on pourrait peut-être faire un exemple concret avec votre ordinateur? Vous tapez sur Auschwitz et vous me dites ou vous nous expliquez les causes exactes. Et je vous dirai ensuite ce que j'en pense.
Mon Dieu, c'est une question immense que vous posez là.
J'accepte bien.
Et je vous invite à revenir le 3 avril, pas par hasard, mais vous... personnellement, alors vous êtes, je suppose, vous avez dit allemand, plusieurs médias allemands ont salué notre initiative, puisque nous travaillons notamment avec l'Institut, le Hamburger Institut für Soziale Forschung. Donc le projet est quand même un peu connu dans votre pays, mais je pense pas encore suffisamment. Alors sur les causes, ça serait énorme de vous répondre là en quelques instants, mais ce que je voudrais tout de suite adopter, c'est un profil de modestie. On travaille sur ces questions-là certainement pour comprendre donc les causes, et vous avez raison aussi pour savoir si on peut les prévenir, mais à cet égard, je reste très modeste parce que je ne pense pas que le travail du chercheur est servi en quoi que ce soit à prévenir un génocide. Et je vous ajouterai même que ma conviction de l'être humain est telle que je pense qu'il est toujours prêt à refaire les mêmes erreurs. Donc, est-ce que ça veut dire que cette initiative ne peut pas répondre à votre attente? Je ne dirai pas non plus. Il est sûr que nous ne voulons pas exercer la responsabilité de prévenir, comme le dit ce beau texte de l'ONU qui n'a pas d'implication pratique, et que nous voulons, comme on l'a déjà répété ici, avoir la, plus exercer la responsabilité de connaître et de faire connaître. Mais il y a quand même, dans notre travail, une dimension qui pourrait peut-être servir à la prévention à travers la manière dont on parle des morts. Parce que ce projet a évidemment une dimension non seulement scientifique, mais mémorielle. On parle des morts. Ce site ne fait que de parler que des morts, et pas n'importe quelle mort, des morts de masse. Donc il est à la croisée, si vous voulez, là encore, de préoccupations. C'est un outil de connaissance, et c'est un outil de reconnaissance de ce qui s'est passé. Alors, voilà, j'ai parfois tendance à penser que la reconnaissance peut être, dans certaines circonstances, un moyen d'apaiser les mémoires. Je me souviens, il y a très longtemps, est venu écouter ici même une conférence de Paul Ricoeur. Et spontanément, j'ai envie de penser à lui aujourd'hui parce que cette volonté qu'il avait de vouloir réconcilier, enfin, ce qu'il appelait le travail de mémoire, mais d'une certaine manière, nous voulons le faire avec cet outil. Et vous trouverez une phrase qui est au début du texte dont j'ai déjà parlé, notre approche scientifique, qui, je crois, est une manière de vous donner tout de suite à voir cette dimension mémorielle. Mais ce n'est pas une phrase de Paul Ricoeur, c'est une phrase de l'historien Michel de Certeau dans l'écriture de l'histoire. Ah ben vous l'avez à l'écran. Le but, je la connais plus par cœur.
L'écriture historique vise à calmer les morts qui hantent encore le présent et à leur offrir des tombeaux scripturaires.
Voilà. Pour moi, c'est une phrase absolument, j'espère pas pour moi, c'est une phrase absolument magnifique. Et voilà, c'est ma façon de répondre à votre question. Oh là.
Vous savez que nous avions des archives dans la DDR, l'ancienne Allemagne communiste. Ils sont ouverts et il y a des chercheurs de tous les pays du monde qui fouillent partout. Et ils ont trouvé des choses. C'est tellement horrible, je ne veux pas en parler ici. Mais ce qu'ils ont trouvé, ils sont encore de découvrir encore plus. Ça va totalement changer l'histoire. Et la question centrale de ces recherches, c'est qui a financé le parti de M. Hitler, NSDAP. Et donc, qui a financé ce parti et pourquoi ils ont financé? Et donc, la réponse, en deux mots, c'est qu'il y avait la révolution bolchevique. Et ils ont peur que cette révolution bolchevique allait s'étendre sur tous les pays capitalistes du monde. Et donc, tous les pays capitalistes, ils ont mis de l'argent sur la table pour financer l'NSDAP, l'armée allemande, pour stopper la révolution russe. Heureusement, nos collègues, nos camarades communistes à Stalingrad, ils ont stoppé ça. Mais quand vous faites la liste de ceux qui ont donné de l'argent, vous allez vous évanouir, vous allez vomir des dégoûts. Et je ne veux pas y entrer dans les détails, mais lisez surtout actuellement sur Internet le financement de la NSDAP. Vous avez des informations tous les jours.
Alors, nous sommes presque déjà dans la séance du 3 avril. Et le fond, ça valide aussi votre hypothèse de créer des séminaires d'études, des lieux de vie où est-ce qu'on peut faire avancer les connaissances en découvrant des nouveaux champs d'études. On revient à notre problématique sur l'outil avec une question, madame.
Oui, excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard, donc je ne sais pas si vous l'avez dit au départ. Est-ce que toutes les contributions de cette encyclopédie seront des contributions originales ou est-ce que vous essaierez de, alors je ne sais pas quel terme il faut employer, de capter ou d'y ajouter toutes les thèses intéressantes qui pourraient être faites sur le sujet, les articles intéressants parus dans des revues ou papiers ou autres sur le même sujet?
D'une manière générale, l'ensemble des articles et des contributions qui sont publiées sont originales, mais on fait toujours en sorte de vérifier qu'elles intègrent les nouveaux développements historiographiques sur le sujet en question. Et si ce n'est pas le cas, donc on fait toujours modifier aussi également le papier, la contribution par son auteur. Et par exemple, on a une contribution sur Sabra et Shatila, une étude de cas qui est publiée avant l'existence du film Valse avec Bachir. Et donc là, la personne qui l'a écrite est en train donc d'ajouter cet élément à son travail. Donc c'est aussi la particularité de cet outil et ce qui en fait sa richesse, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait une découverte historique, historiographique, ou qu'un auteur paraît une thèse, fait paraître une thèse qui est intéressante, on l'intègre. Donc c'est l'enjeu.
Merci. Une autre question, monsieur.
Oui, bonsoir. Tout d'abord, je me réjouis de l'existence de cet outil qui a le mérite de ne plus diviser histoire et mémoire, mais de reconnaître l'intérêt des deux choses. Et je voulais avoir des informations sur le... Est-ce que vous allez intégrer d'autres meurtres de masse qui appartiennent à l'histoire plus lointaine ? Est-ce que vous restez dans l'histoire contemporaine ou est-ce que... Ça vous semble pertinent d'intégrer des massacres, que ce soit au temps de l'esclavage moderne, voire plus loin au Moyen-Âge, des guerres de religion? Et est-ce que aussi c'est pertinent sur le plan épistémologique? Est-ce que justement les notions de génocide et de meurtre de masse n'ont pas été constituées au XXe siècle? Et est-il pertinent de les replacer dans des époques antérieures?
Jacques Semelin.
Oui. Je remarque qu'il y a deux manières de répondre à votre question, à travers les mots que je vais vous dire, mais aussi à travers Nathalie, qui est extrêmement efficace, pour vous mettre à l'écran tout de suite notre papier sur les guerres de religion, qui a été fait par David Elkamp, que peut-être des gens connaissent ici, puisqu'il a dirigé un volume aux éditions Gallimard sur le massacre dans l'histoire. Et bien sûr, notre souci, c'est de remonter dans le temps. On ne peut pas comprendre le 20e sans le 19e, mais évidemment c'est un travail de longue haleine. Alors, mais vous allez trouver par exemple une étude originale aussi sur le 18e, 19e, sur l'Australie, la lente disparition des Tasmaniens au 18e et 19e. Donc c'est une manière de vous répondre. Alors, la question que vous posez, c'est l'utilisation du mot génocide. Là, on vient sur le fond, mais vous avez raison, quand même, on ne peut pas être complètement hermétique à cette question ici, même si on est plus sur l'outil. Il est évident, et j'ai écrit beaucoup là-dessus, que l'utilisation du mot génocide de manière rétroactive pour des temps anciens est problématique. Quoique je respecte les collègues qui... ont cette vision des choses. Mais ça ne nous empêchera pas d'aborder ces cas sans utiliser le mot génocide, nécessairement, ou de dire, pour certains, ou de laisser entendre que oui, ben pour certains auteurs, c'est un génocide et pour d'autres, ce n'en est pas. Donc, il faudrait rentrer dans la méthodologie de notre outil, puisque, par exemple, vous voyez, par exemple, dans ce qu'on appelle les index chronologiques, qui est l'information de base que nous voulons donner au lecteur, c'est-à-dire, en gros, on tape Inde, bon, qu'est-ce qui s'est passé en Inde du point de vue des violences de masse? Donc on va avoir ce que Nathalie a appelé un index chronologique contextualisé. Dans ces index, il n'est pas possible d'utiliser le mot génocide. C'est interdit. C'est interdit, on décrit, on analyse. C'est possible si le mot est apparu dans le moment de l'action, si certains auteurs ou certains journalistes ont dit, voilà, ce qui est en train de se passer, c'est un génocide. À ce moment-là, ça fait partie de notre méthode historienne, que d'intégrer à ce moment-là le fait que le mot est apparu. Mais donc, ce que nous avons mis au point, c'est une méthode finalement très simple, qui, je crois, permettez-moi de le dire, est dans la tradition de Marc Bloch, qui consiste à raconter une histoire, à la contextualiser, à la chronologiser, et ensuite à organiser éventuellement des controverses autour de cette histoire.
Merci. Une autre question ? Madame, devant.
des cas d'études, même des cas qui ne sont pas considérés comme génocide au niveau juridique. Je veux savoir si c'est possible que cette encyclopédie s'adresse aussi au monde de juridique, donc aider ce monde pour comprendre mieux et peut-être créer des tribunaux spéciaux et bon, parce que pas toujours il y a. Je suis désolée pour mon français. Merci.
Merci.
Ce que vous dites me rappelle les mots prononcés par Simone Veil et Esther Mujawayo le jour de l'ouverture. Elles notaient toutes les deux qu'à partir du moment où ce site existe et où la connaissance scientifique atteste qu'il s'est passé tel événement, qui a fait tant de morts dans tel pays, et Esther Mujawayo parlait surtout du Rwanda face au négationnisme qui s'exprime sur ce génocide, disait bah, c'est une forme d'attestation, de légitimation de ces morts qui permet ensuite d'aller en justice ou justement d'arrêter toute forme de négationnisme. Et Simone Veil en parlait également vis-à-vis de ses activités juridiques. Donc c'était
un complément sur un autre plan. Il est évident que ce site est fait pour servir et donc pourquoi pas des juges, des avocats comme base de référence fiable. Voilà, c'est à travers le monde entier, ben, on espère qu'ils auront de plus en plus sur ce site pour se dire ah ben voilà, il s'est passé telle chose au Sierra Leone, quels sont les meilleurs auteurs avec à qui je peux faire appel, enfin bon. Donc, il y a cette idée-là de servir. Hein. Mais il y a une autre dimension qui est malheureusement en friche jusqu'à présent, c'est notre volonté d'être aux interactions entre les sciences juridiques et les sciences sociales. La Convention sur le génocide est d'abord une convention juridique, 1948. D'ailleurs, je précise que cette convention, on le sait trop peu, a été votée à Paris, le 9 décembre 1948, et que nous allons enfin obtenir que, c'est une annonce que je vous fais, qu'on commémore ici le 60e anniversaire, le 9 et le 10 décembre 2008, donc, au Palais de Chaillot. Alors, je referme cette parenthèse, mais pour signaler que Raphaël Lemkin, qui est le principal père de cette convention, se situait vraiment dans une réflexion entre le droit et les sciences sociales. Et donc, dans ce qu'on a appelé ici les papiers théoriques, eh bien, j'espère qu'on va trouver une personne, ça ne peut pas être moi, parce qu'on est, puis Nathalie non plus, parce qu'on est tellement accaparé par la dynamique du projet, mais on attend avec impatience un collègue qui prendra vraiment en charge une rubrique sur sciences sociales et droit pour présenter les meilleurs papiers qui sont à l'interaction de cela. Parce que, vous le savez, enfin là on rentre sur le fond, mais la Convention sur le génocide pose des problèmes aux historiens, aux politistes, qui pose aussi des problèmes du point de vue de la jurisprudence dans les tribunaux pénaux internationaux. On ne va pas rentrer là-dedans, on va en discuter le 9 décembre justement au Musée de l'Homme, au Trocadéro. Mais voilà, on pourrait imaginer qu'on présente les meilleurs auteurs qui en 10, 15 pages nous disent voilà ma position sur ce point-là. Donc ça, c'est aussi l'ambition de l'encyclopédie, d'être un outil pluridisciplinaire de communication donc entre les disciplines.
Merci. Une autre question dans la salle pour nos trois invités. Madame, devant.
Je voudrais juste poser deux petites questions du citoyen, enfin de l'internaute citoyen engagé. Petit A, vous n'avez fait qu'effleurer la question du débat en disant qu'il n'y aurait pas de place aux contributions spontanées. Je pense que l'internaute citoyen engagé voudra avoir une réponse un petit peu plus longue, parce que peut-être ce qu'il cherche aussi, c'est le débat, ce qu'il demande. Et deuxièmement, une toute petite question, pourquoi est-ce que Mme Tenenbaum ne passe tous les documents en anglais ?
Ah, ouais, oui. Je peux aussi vous en passer en français.
Oui, je sais bien.
Alors, la réponse sur le...
En ce qui concerne les contributions spontanées, les propositions de contributions spontanées sont très favorablement accueillies. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que l'auteur se conforme après, évidemment, aux normes que Jacques et moi avons établies en ce qui concerne les consignes méthodologiques pour rédiger des articles. Donc, effectivement, le fait de présenter sur le site... dans cette liste des pays, vous voyez, il y a des pays cliquables et d'autres qui ne le sont pas. C'est aussi un appel à dire, voilà, il y a des chantiers à traiter. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Mais voilà, le critère, c'est de se conformer aux normes méthodologiques de l'encyclopédie.
Mais toujours avec un processus de refroidissement, quand même. C'est-à-dire que vous ne privilégiez pas, justement, le débat ou les réactions à chaud ou en train de se faire, mais les contributions pour rendre un texte beaucoup plus apaisé, révisé.
Oui, tout à fait. Oui, si l'écriture est parfois trop militante,
elle est corrigée. Ce n'est pas place pour
l'outil lui-même. Oui, chaque article est évalué par à chaque fois au moins deux experts spécialistes. Et la contribution n'est pas publiée tant que l'auteur n'a pas intégré ses remarques.
Sur l'anglais, tu
réponds ? Oui, sur l'anglais. On a un certain nombre de contributions en français qui ont originellement été produites ainsi. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil... Vous avez l'ensemble des ressources qui sont disponibles en français. Il y en a pas mal. Alors, en général, donc, l'anglais s'affiche à l'écran. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez télécharger en PDF le texte en français. Voilà. Mais effectivement, l'ambition pour 2009, c'est de créer un outil qui soit complètement multilingue. En tout cas, un outil de navigation, parce que là aussi, la navigation est en anglais. En 2009, on devrait avoir normalement une navigation en français.
C'est vrai que c'est un petit peu mon désespoir, c'est-à-dire qu'au départ, personnellement, je souhaitais que l'encyclopédie soit totalement bilingue en anglais et en français. Hein. Mais pour des raisons tout simplement pragmatiques, avec la petite équipe que nous étions au départ, c'était strictement impossible de concevoir le travail dans les deux langues. Et à l'échelle internationale, ben voilà, c'est le constat, c'est l'anglais qui prime. Donc il y a eu la prime à l'anglais. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que, comme vient de le préciser Nathalie, nous voulons pas faire des efforts vers le français. Nous allons en faire. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est à chaque fois, ça se heurte à des problèmes de moyens. Parce que on va réfléchir sur l'outil de navigation en français. Vous voyez, pour aller d'un endroit à un autre du site, on va faire évoluer le site. On va faire apparaître plus nettement les productions françaises, parce que il se trouve que le français, il est en PDF, il n'est pas dans la base, donc vous ne les voyez pas, en fait.
Jacques, je me permets juste d'indiquer, donc quand vous avez un article en anglais sur l'écran, vous voyez là, sur le côté, « This article », vous avez les cartes, les images, et en dessous, imprimé en PDF, en anglais ou en français. Et donc, il suffit de cliquer pour obtenir le texte en français, en plus... De la mention ressources disponibles en français sur la page d'accueil.
Mais pour 2009, ceci fait partie de nos priorités, c'est-à-dire de rendre plus visibles les textes en français et d'aller plus vers le bilingue. Alors, le problème du financement, il est réel parce qu'une école de traduction très, très prestigieuse nous a proposé de nous aider pour les publications, pour traduire les textes en français. Mais même si ce sont des traducteurs des élèves traducteurs très, très brillants, il y aura toujours un travail de relecture du français parce que ce sont des sujets très sensibles. Or, nous ne sommes pas aujourd'hui suffisamment nombreux pour assumer toutes ces traductions. Donc, si vous voulez, voilà, on retrouve ça ce problème financier. Notre ligne de mire, malgré tout, c'est de faire en sorte que, et là je ne parlerai pas que du français, c'est que les articles propres à un pays soient dans sa langue vernaculaire. C'est-à-dire que si vous allez par exemple sur France, vous allez trouver tous les articles qui portent sur la France en anglais et en français. Si vous allez, mais après, ce qu'on veut faire, c'est que si vous allez sur la Russie, c'est pas le cas aujourd'hui, mais vous aurez les articles en anglais et en russe. Vous voyez? Donc, sur le Pérou, ça serait un affront aux Péruviens, aux Guatémaltèques, d'avoir le texte en anglais. Donc, c'est l'idée de privilégier la langue principale du pays quand celle-ci existe. Mais voilà, ça, c'est encore une question. De moyens, on tombe, mais ça fait partie effectivement de nos priorités.
Des objectifs.
Voilà.
Nous avons le temps pour une dernière question dans la salle, s'il y en a une. Oui, madame.
Bonsoir. J'ai une question à monsieur Martin. Donc, vous avez parlé, je n'ai pas compris votre idée de patrimoine, de conservation des connaissances. Parce qu'avec l'évolution, ici le patrimoine, vous voulez dire patrimoine de chaque pays, ou parce qu'avec l'évolution de l'Internet, ça deviendrait patrimoine, je veux dire, au niveau international, globalisation. Donc, ce n'est plus un village gaulois, je veux dire.
Frédéric Martin.
Oui, tout à fait. C'est une question très intéressante, la question des frontières du patrimoine. Quand ce patrimoine qui se constitue sous nos yeux sur Internet, puisque on n'en a peut-être pas nécessairement conscience tous les jours quand on utilise Internet, mais on a bien là aussi un patrimoine qui se constitue. Hein. Quand ce patrimoine-là est un patrimoine qui dépasse le cadre d'un pays, d'un État, et qui est partagé au niveau international. C'est vrai qu'il y a les questions de préservation du patrimoine qui sont des questions essentiellement techniques, mais aussi documentaires et de production de l'information. Il y a aussi la question des moyens qu'on peut consacrer à cette conservation, à cette valorisation du patrimoine. Internet représente une masse considérable de connaissances qui nécessite un coût très important si on souhaite vraiment préserver sur le très long terme la totalité d'Internet. Et actuellement, l'approche qui est celle des États, on a quand même toujours une approche par État, et celle de définir tout de même un territoire national, un domaine français de l'Internet. Parce qu'un pays à lui seul ne peut pas conserver la totalité de l'Internet. C'est quelque chose qui est techniquement trop, trop difficile. Donc l'approche actuelle est plutôt que chaque pays essaye... C'est très difficile sur Internet parce que ces frontières-là sont très floues et très instables, mais essaye de consacrer plutôt ses efforts sur les contributions des internautes dans la langue du pays ou dans le domaine. Vous savez, c'est les extensions, les noms de domaine en .fr, etc. Mais vous voyez, il y a .org, il y a .com. On ne peut pas nécessairement facilement retrouver à quel pays appartient un site, si un site appartient à un pays. Donc il y a des difficultés là, et on en est au tout début de cette réflexion sur le patrimoine. Hein. Il y a effectivement les déclarations de l'UNESCO sur la nécessité de préserver le patrimoine numérique au même titre que le patrimoine physique. C'est aussi important. On n'est plus du tout sur une logique de support. Le numérique est aussi important que le physique, mais comment s'y prendre pour garder la totalité de ce patrimoine-là? C'est une question, je n'ai pas la réponse très, très précise, mais vous pointez, et vous avez tout à fait raison, cette difficulté qui est la logique nationale par rapport à un média qui nous dépasse tous, qui est Internet.
Merci. Dernière petite question, plus légère, question aux auteurs de l'encyclopédie. Ce logo dont vous nous parliez tout à l'heure, signé Seymour Simons, c'est ça?
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il signifie?
Alors, il signifie plusieurs choses. Mais Jacques, tu peux intervenir. Donc, l'idée, c'est d'avoir donc, ce globe qui représente donc, la Terre, mais aussi donc, les violences de masse qui s'y passent. Et chaque rayon est censé irriguer, représenter la connaissance de ces phénomènes meurtriers et qui irriguent l'ensemble du monde. Et donc, c'est des mouvements dans deux sens. Voilà, c'était surtout ça l'idée, mais il y a un petit descriptif à l'écran en anglais qui explique tout ça. Voilà.
Que l'on peut retrouver sur le site, et bien nous savons donc presque tout sur l'encyclopédie en ligne des violences de masse. Merci à tous les trois, Frédéric Martin, Jacques Seblin, Nathalie Tannenbaum, pour vos interventions et le débat que vous avez bien voulu mener devant nous. Je crois qu'on peut tous se donner rendez-vous, si vous êtes à Paris,
le 3 avril, donc pour la deuxième partie et le premier anniversaire de l'encyclopédie, donc dans ses locaux, pour parler du fond cette fois-ci. Je vous rappelle que cette séance peut être réécoutée sur la web radio de France Culture, Les Chemins de la Connaissance, et sur le site internet de la bibliothèque. Merci à tous. Si vous avez des questions et si vous souhaitez contribuer à la préparation du débat du 3 avril, vous pouvez les poser par internet en envoyant ces questions à la BPI, à l'organisatrice et conceptrice de cette séance, Valérie Bouissou. Vous trouverez le mail au dos du programme. Merci à tous de votre participation. Bonne soirée. Ouais.